Please, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 7. On va continuer notre étude, Genèse chapitre 7. Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car j'ai vu juste devant toi en ces temps-ci. Tu prendras de toutes les bêtes nettes, sept de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont point nettes, un couple, le mâle et la femelle. Tu prendras aussi des oiseaux, des cieux, sept de chaque espèce, le mâle et la femelle, afin d'en conserver la race sur toute la terre. Car dans sept jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre toute chose qui subsiste, laquelle j'ai faite. Et Noé fit tout ce que l'Éternel avait commandé. Or, Noé était âgé de 600 ans quand le déluge des eaux vint sur la terre. Noé entra donc, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils dans l'arche, à cause des eaux du déluge. Des bêtes nettes et des bêtes qui ne sont point nettes, et des oiseaux et de tout ce qui se meut sur la terre. Elles entrèrent deux à deux vers Noé dans l'arche, le mâle et la femelle, comme Dieu avait commandé à Noé. Il arriva qu'au septième jour, les eaux du déluge furent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme furent rompues et les bondes des cieux furent ouvertes. Et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé et Sem, Cam et Japhet, fils de Noé, entrèrent dans l'arche avec la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et toutes les bêtes selon leur espèce, et tout bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui se meuvent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, et tout petit oiseau ayant des ailes de quelque sorte que ce soit. Il vint donc de toute chair qui a en soi esprit de vie par couple à Noé dans l'arche. Le mâle, dis-je, et la femelle de toute chair y vinrent, comme Dieu lui avait commandé, puis l'Éternel ferma l'arche sur lui. Et le déluge vint pendant 40 jours sur la terre, et les eaux crurent, et élevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux se renforcèrent, et s'accrurent fort sur la terre, et l'arche flottait au-dessus des eaux. Les eaux donc se renforcèrent extraordinairement sur la terre, et toutes les plus hautes montagnes qui sont sous tous les cieux en furent couvertes. Les eaux se renforcèrent de 15 coudées par-dessus, et les montagnes en furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant des oiseaux que du bétail, des bêtes à 4 pieds, et de tous les reptiles qui traînent sur la terre, et tous les hommes. Toutes les choses qui étaient sur le sec, ayant respiration de vie en leurs narines, moururent. Tout ce qui subsistait sur la terre fut donc exterminé, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux. Ils furent, dis-je, exterminés de dessus la terre, mais seulement Noé et ce qui était avec lui dans l'arche demeura de reste. Et les eaux se maintinrent sur la terre durant 150 jours. Alors, je vous rappelle qu'on continue la leçon de la semaine dernière. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu d'amour et de miséricorde. Tu es le Dieu de bénédiction, le Dieu de consolation, le Dieu d'instruction. Seigneur, on vient devant toi ce matin, on a élevé nos cœurs tantôt par le chant. Maintenant, Seigneur, on veut ouvrir nos esprits, recevoir ta parole qui nous instruit, qui nous instruit sur les choses qui se sont passées au début. Alors, Seigneur, permets qu'on comprenne ce qu'on va étudier, qu'on retire les principes qui y sont enseignés de manière à ce qu'on les applique dans nos vies, et tout cela pour ta plus grande gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on va réviser un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière et on va terminer le chapitre 7. Alors, je vous rappelle qu'on avait donné comme titre, j'avais donné comme titre au chapitre 7, le cataclysme du déluge universel exécuté. Donc, on avait comme trois principales idées dans l'intérieur du texte. Le cataclysme, sa préparation, dans le verset 1 à 9. Et on avait vu aussi que la famille de Noé, donc la préservation, dans les versets 10 à 16. Et dans les versets 17 à 24, on a vu que le cataclysme, il y avait une présomption. Donc, tous ceux qui n'ont pas cru ce que Dieu disait ont été pris dans l'exécution que le Seigneur faisait de ce qu'ils avaient, de ce qu'il avait menacé, qui était pour se produire sous peu. Alors, on se souvient que le mot cataclysme veut dire inondé. Donc, on sait que la Terre a connu beaucoup de cataclysmes au cours de son histoire, des tsunamis, des tremblements de terre, des explosions qui se passent dans les volcans et plein de choses comme ça. Bien sûr, ce sont des gros phénomènes, ce sont des phénomènes inquiétants, ce sont des phénomènes qui font peur. Mais comparé, ces petits cataclysmes, je les appelle petits volontairement, comparé à celui du déluge, c'est vraiment des petits cataclysmes, parce que celui du déluge était quelque chose de tellement gigantesque, était quelque chose qui détruirait toute la vie sur la Terre. Alors, dans les cataclysmes qu'on a parlé tantôt, il n'y a jamais rien là-dedans qui détruisait toute la Terre. C'était tout des parties d'un pays ou de ville ou de continent. Mais jamais un cataclysme n'a eu lieu sur la Terre d'une ampleur comparable à celle du déluge. Alors, c'est important de saisir ça. Alors, on avait vu aussi que dans Jérémie, le Seigneur avait dit à Jérémie, il avait voulu comparer le fait que quand il promet quelque chose, il exécute toujours sa parole, il est fidèle à ce qu'il dit. On avait vu ça dans Jérémie, chapitre 1, versets 11 et 12. « Et la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, « Que vois-tu, Jérémie? » Et je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alors ça, c'est un principe qu'on peut garder de l'ensemble de notre étude qu'on fait de Genèse. Quand Dieu parle et dit qu'il va arriver quelque chose, même si des fois c'est longtemps après, ça finit toujours par arriver. Et autre chose, le Seigneur nous dit qu'aussi à la fin des temps, la destruction qu'il a faite par l'eau pour toute la terre, il va faire la même chose, mais avec le feu cette fois-ci. Dans 2 Pierre, chapitre 3, et versets 3 à 7. Alors, bien entendu, quand Dieu parle et avertit, on se doit de prendre des mesures pour démontrer qu'on a la foi en ce qu'il vient de nous dire. Alors, je pense qu'ici, Noé est vraiment un modèle pour nous de voir jusqu'à quel point il a cru Dieu. Et comme on avait mentionné la semaine dernière, bâtir un bateau de cette envergure-là, en étant un petit nombre comme ça, et persévérer pendant 120 ans, avec les difficultés que tout ça devait représenter, ça l'implique une foi qui était véritablement très forte, très fondée, très authentique et très persévérante. Alors, je pense qu'on a à regarder la vie de Noé et de s'en inspirer. Alors, on avait vu que les versets 1 à 9, qui étaient définitivement une préparation au cataclysme. C'était comme Dieu voulait montrer à son serviteur, « Prépare-toi parce que ce que j'ai dit est sur le bord de s'exécuter. » On avait vu que c'était une préparation qui impliquait de la miséricorde dans le verset 1, parce que ça dit, « L'Éternel dit à Noé, « Entre, toi et toute ta famille, dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Alors, on avait vu l'idée que c'est pas Noé qui prend l'initiative. OK, le bateau est fini, je m'en vais rentrer dedans. Il attend que Dieu lui donne ses instructions et lui dise comment il veut procéder. Alors, on voit ici l'amour du Seigneur qui est vraiment tendre envers son serviteur. Il lui dit tout quoi faire. Et la phrase, on avait vu que la phrase, au lieu de dire « va et entre dans l'arche », il dit « entre ». C'est comme si, c'est comme une indication par le langage qu'il va être avec lui présent dans l'arche. Alors, c'est important de réaliser cela parce que Dieu Autrement dit, tu es en train de dire, non seulement tu vas être protégé, mais je vais être avec toi dans toute cette aventure-là. Ça devait être quelque chose qui devait être, même s'il y avait un gros bateau, ça devait être quelque chose qui devait être quand même terrorisant. Juste le fait de penser que Dieu avait dit qu'il détruirait toute la terre, quelque part, il devait y avoir une idée là-dedans, quand tu te mettais à réfléchir, il n'était pas sans réfléchir, et ça devait, jusqu'à un certain point, faire peur. Mais quand Dieu te dit quelque chose, il dit, fais ce que je te dis et je vais être avec toi, oh, ça calme un peu. Alors, quand le Seigneur dit, je t'ai vu juste devant toi, devant moi, on a voulu exprimer l'idée la semaine dernière que c'est pas juste que Dieu voulait exprimer l'idée que son serviteur vivait une vie de justice, donc une vie d'obéissance, une vie consacrée, une vie sanctifiée. Il y avait plus que ça. Il y a le mot juste, je t'ai vu juste devant moi. Alors, c'est très certainement une référence à la justification, le fait que Dieu justifie celui qui croit au Messie. Donc, c'était de la part de Noé une foi au Messie à venir, et c'était sur cette base-là que Dieu déclarait que Noé était juste. Pas parce qu'il avait fait une vie sans péché durant toute sa vie, il en avait fait comme tout le monde, mais Dieu te déclare juste sur la base de la justice d'un autre. On sait que tout le salut est basé là-dessus. Le Seigneur a accompli la justice qui devait être la nôtre à notre place, et il a reçu le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place, et, c'est la foi en cela qui permet à Dieu de dire de Noé qu'il est juste. On a vu aussi que dans les versets 2 et 3, que c'était une préparation généreuse. Dieu avait permis que un couple de tous les animaux entre dans l'arche, et on avait vu qu'il y avait, pour les animaux purs, il avait voulu qu'il y en ait 7. Quelle était la caractéristique des animaux purs? C'était des animaux qui servaient à l'utilité humaine, donc aider au travail. Un cheval, un bœuf, ça peut vraiment nous aider dans le travail. La nourriture, les gens, et le Seigneur, dans Lévitique 11, avait donné toute une série d'instructions à son peuple de ce qu'il pouvait manger, de ce qu'il pouvait pas manger. Alors ici, il lui donne plus d'animaux qu'il pouvait manger, qu'il avait besoin, pour conserver la race. Il lui en donne donc un certain nombre de paires qui pouvaient être utiles pour ça. Et on sait que les animaux servent aussi de vêtements. Et ça servait aussi à autre chose qui était déjà établi depuis le début de la Genèse. Ça servait au sacrifice. Alors, si tu avais eu juste un animal de chaque sorte, si tu faisais un sacrifice, Dieu permettait que, par le fait d'en donner 7, non seulement il assurait à l'homme de combler les besoins concernant l'aide au travail, la nourriture et les vêtements, mais aussi il permettait que tout le système sacrificiel puisse continuer jusqu'à l'arrivée du Seigneur, jusqu'à l'accomplissement de tout ce qui avait été promis concernant le Messie dans l'Ancien Testament. Alors, on a vu aussi on a vu un petit peu la semaine dernière un peu les chiffres qui sont mentionnés dans ce chapitre-là. Si on se met à les analyser vraiment avec attention, il y a le chiffre 6, il y a le chiffre 7, et il y a des dates. On a vu la semaine dernière que tout cela a de l'importance. Le Seigneur ne donne pas... Ça, c'est une chose qu'on... Encore, je pense, ce matin, dans mes lectures, je voyais encore des dates. C'est tellement rare qu'on s'arrête, puis on se dit, ça correspond à quoi, ça, dans le calendrier juif? Le Seigneur ne donne pas des dates comme ça en l'air, juste pour remplir du texte. Il nous donne des dates parce que c'est significatif, ça nous enseigne quelque chose de précis et de précieux aussi. On a besoin parfois de s'arrêter et de voir toutes ces richesses-là que le Seigneur nous donne dans les Écritures. Et il lui dit une révélation, autrement dit, il est en train de lui dire le moment précis où l'exécution de son avertissement était pour se faire. Il lui dit dans le verset 4, « Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre. » Et là, il lui mentionne encore une fois un autre chiffre, 40. On a vu un peu la semaine dernière aussi la signification de 40. Donc, normalement, c'est un temps d'épreuve. Et à la fin, il y a une victoire. Un peu comme Christ quand il a été tenté, c'était 40 jours, il a jeûné pendant 40 jours, et après, le démon a cherché à... Mais il y a eu la victoire. Alors, souvent, le 40 est utilisé, il lui dit un chiffre précis. Et étudier, par exemple, les numéros dans les Écritures et regarder ce qui est attaché à la signification de ces mots-là, souvent, ça va nous emmener un éclairage important sur le texte. Et là, il lui dit qu'il va faire pleuvoir, et je ferai pleuvoir. Alors, c'est pas un phénomène naturel, c'est pas qu'à un moment donné, le ciel s'est rempli de nuages, puis que là... C'est lui, c'est Dieu lui-même qui contrôle les événements. Alors, pendant 40 jours, 40 nuits, et, encore une fois, le mot « je », j'exterminerai. C'est vraiment une décision divine de la face de la terre, tous les êtres que j'ai faits. Donc, on voit dans ce verset-là la bonté de Dieu qui se révèle, il révèle des choses secrètes à son serviteur. On a vu que l'Éternel le faisait souvent. Dans l'Ancien Testament, dans Amos 3:7, il nous dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » C'est quelque chose de constant dans les Saintes Écritures que le Seigneur va souvent avertir les siens avant l'arrivée d'un malheur. Et on voit aussi à l'intérieur de ça l'omnipotence de Dieu. Pour être capable de qu'il y ait un déluge suffisamment important pour couvrir la terre, détruire toute la vie, ça implique l'omnipotence, bien entendu, parce qu'on va voir tantôt que la question des eaux d'en haut et d'en bas, ça demande véritablement la puissance et la force divine. Et aussi la souveraineté de Dieu sur la durée des événements. Il dit pas, il va pleuvoir pendant un certain temps, là, inquiète-toi pas. 40 jours et 40 nuits. Et je suis convaincu que si Noé les a comptés, c'est 40 jours et 40 nuits. Alors, on avait vu justement le chiffre 40, souvent utilisé dans les Écritures comme symbole d'une période d'épreuve qui se termine par la victoire du bien et la ruine du mal. Souvent, dans les Écritures, vous allez regarder les chiffres 40, souvent cette même idée-là est présente. On avait rappelé aussi que dans le psaume 39, le Seigneur nous dit qu'il a déterminé pour chacun des êtres humains qui vivent sur la terre, et nous, d'une façon particulière, parce qu'il dit, je ne me souviens plus dans quel psaume, je pense que c'est dans le psaume 118, qu'il dit que l'être humain, le saint, la personne qui lui appartient, sa mort est précieuse à ses yeux. Donc, notre mort est précieuse aux yeux du Seigneur parce qu'il nous a rachetés. Et notre âme lui appartient, et bien entendu, après qu'on meurt, il la récupère très certainement. Alors, c'était une préparation aussi qui était attentive. On a vu les quatre premiers versets, c'est la part de Dieu dans l'exécution, dans le fait de dire à Noé, « Prépare-toi parce que c'est à veille d'arriver. » Donc, la part de Dieu dans les quatre premiers versets, mais dans les versets, à partir du verset 5, on voit la part de l'homme. Alors, on voit le côté souverain et on voit que Dieu, malgré sa souveraineté, va utiliser l'homme dans l'exécution de ses plans. Parce qu'il dit dans Genèse 7, 5, « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Alors, c'est une exécution aussi qui se fait de façon précise parce que il lui parle dans le verset 6 et 7, « Noé était âgé de 600 ans. » Encore une fois, le chiffre 6, dans les Écritures, c'est toujours le chiffre de l'imperfection. Avec deux zéros en arrière, ça veut dire que c'est vraiment le comble de l'imperfection. Il dit, quand le déluge eut lieu, Noé avait 600 ans. Et que les eaux vinrent sur la terre, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils avec lui, les eaux du déluge. On avait vu que, selon les chronologistes bibliques, qu'on pourrait dire, parce qu'il y en a qui ont fait ça, hein. Si vous regarderez la grosse carte qu'on a en bas, là, il y en a qui calculent, quand un tel est né, il avait tel âge, et ils calculent tout ça et ils sont capables de faire un genre de schéma. Et d'après les chronologiste biblique, la date qui est mentionnée correspondra à l'an 1656. Si vous allez en bas, là, vous regardez sur notre grosse carte, regardez Noé et regardez l'arrivée du déluge, et la carte d'en bas va marquer 1656. Alors, il y avait déjà 1656 années de déroulé dans l'histoire de l'humanité avant que Dieu envoie le déluge. Alors, à cause du fait qu'il mentionne cette date-là, on a vu que on va le voir un peu plus tard. Le Seigneur ne nous laisse aussi non plus aucun doute quant au nombre de personnes qui ont été sauvées, malgré l'importance du déluge. Parce que si les théories de ceux qui disent que c'était un déluge partiel, régional, à ce moment-là, ça voudrait dire que le Nouveau Testament compte des mensonges. Parce que, en y allant par déduction, 1 Pierre 3:20 dit « Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » Si ça avait été régional, il y en aurait eu bien plus que 8 qui auraient été sauvés. L'être humain aurait continué de... Alors, il faut... Ou on croit les Écritures, ou on s'embarque dans les théories des hommes et on s'égare. Moi, je vois ça d'une façon très simple, parce que dans le fond, c'est ça. Et on voit que Noé avait véritablement une très grande foi en Dieu, comme il est mentionné dans Hébreux 11. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, bien entendu, s'embarquer dans une œuvre semblable de construire une arche de cette dimension-là, il fallait qu'il y ait de la foi et de la persévérance, mais pas à peu près. Pas à peu près. Et on voit dans le verset 8 et 9, alors on voit, on est encore dans la préparation, que Dieu permet que les animaux qu'il veut qu'ils entrent dans l'arche vont se diriger vers l'arche de façon en ordre. Alors aujourd'hui, souvent, les gens vont dire, ben oui, mais là, Noé est obligé de partir, aller à la chasse, aller chercher les animaux, les emmener. Un animal, ça ne se contrôle pas comme on veut. Mais le texte nous dit que ce sont les animaux. Alors Dieu, par impulsion divine. C'est sûr que si tu es inconverti, tu ne crois pas que Dieu est capable de faire une telle chose. Prendre des animaux, leur mettre à l'esprit, soit en aller à un moment précis, dans une direction précise, pour faire quelque chose de précis. Les Écritures nous donnent un paquet de choses qui vont dans ce sens-là. Un peu comme Élie. Un corbeau qui donne sa viande, là, à quelqu'un pour le nourrir, là, c'est pas naturel. Parce que le corbeau, il garde qu'est-ce qu'il a ramassé. Et pendant, je me souviens plus pendant combien de jours, Dieu a permis qu'un corbeau, alors, il fallait que ça soit par impulsion divine, que Dieu mettait dans l'esprit d'un animal de se diriger vers un endroit précis, et cet endroit-là, c'était pour nourrir son serviteur. Mais quelque part, si on a la foi, on n'a aucune difficulté avec ça. Mais si on n'a pas la foi, bien là, on voit des difficultés qui sont presque insurmontables. Alors, Dieu a permis, dans les versets 8 et 9, que les animaux que lui voulait qu'ils soient sauvés soient définitivement sauvés. Alors, on vient de réviser les 9 premiers versets de façon assez rapide. Maintenant, on regarde la préservation du cataclysme. On a eu la préparation. On va regarder la préservation. Et là, versets 10 à 12, la menace divine s'exécute. 7 jours après, qu'est-ce qu'il avait dit? Dans 7 jours, ça va commencer. Qu'est-ce qui arrive? 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc, c'est une exécution qui se fait dans la grâce par le fait que la porte, j'imagine la grosseur de la porte. On a vu la grosseur de l'arche l'autre jour un peu sur l'image qu'on a vue, la vidéo. Pour vouloir faire rentrer autant de matériel à l'intérieur de ça devait être énorme. Alors, la porte, ça ne devait pas être 3 pieds de large. Ça devait être une énorme porte. Alors, le Seigneur dit qu'il donne la date exacte et c'est une exécution qui se fait de façon précise. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. Et je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière de les recherches que j'ai voulu faire pour essayer de comprendre comment ça marchait. Il y en a un qui disait que c'était le second mois. Je regardais dans le calendrier juif, ça donnait le 7e mois. Je dis, oui, il y a un problème, c'est ce que je ne comprends pas. J'ai fini par comprendre que les Juifs avaient établi 2 calendriers. Il y avait le calendrier qu'on pourrait dire divin, le calendrier religieux, le calendrier qui venait donner toutes sortes de manières d'agir dans la vie religieuse du peuple. Et il y avait le calendrier civil. Le calendrier civil, lui, était organisé plus sur la moisson. Autrement dit, les récoltes, Dieu savait quand est-ce que les récoltes avaient. Les Juifs devaient avoir tout centré autour de l'économie. Alors, après les récoltes, qu'est-ce qui arrive normalement? L'argent rentre, on peut échanger avec les autres. Et il y avait comme un double calendrier. Le calendrier civil, lui, commençait après la moisson. Mais ça ne correspondait pas avec le calendrier. Mais si on ne comprend pas ça, là, on a de la misère à se retrouver dans tout ça. Alors, on a trouvé ça. Justement, dans cette Bible-là, cette semaine, à la fin, il y a tout un tableau qui explique le calendrier juif. Et c'est, j'ai dit à Lucie, comment ça que je viens de voir ça? Ça aurait fallu que ça soit là 2 semaines que je vois ça. Là, je l'ai vu, mais je vous le dis, là, c'est très intéressant. Parce que là, on voit que quand la Bible dit que c'est arrivé à telle date, là, on sait que le 2e mois, c'est un mois qui correspondrait à peu près, probablement, au mois de novembre. Donc, le 17 novembre, l'an 1656, ces choses-là arriveraient. Et, versets 11 et 12, « Et que ce fut par ces choses que le monde d'alors submergé par l'eau. » Alors, il faut qu'on ait vraiment une idée de l'ampleur et du gigantisme de l'affaire. Le Seigneur nous donne la source des eaux. D'où ça venait? Ça venait que l'écorce terrestre, il y a fort probablement de l'eau. Moi, je ne suis pas un spécialiste là, des affaires marines, aquatiques, là, tout ça, là, mais il y en a. Des chrétiens qui connaissent ce domaine-là. Et ça voulait dire que le Seigneur a fait craquer le sous-sol marin pour que les eaux qui sont enfermées dans le sous-sol... On en parle... Moi, je trouve que la version anglaise, et même celle-là, ce matin, j'ai vu qu'il utilisait aussi les fontaines. En anglais, c'est « All the fountains of the great deep broken ». Alors, les fontaines qu'il y avait sous le sous-sol marin ont littéralement craqué, « broken », ça a cassé, pour que l'eau puisse sortir par en dessous. Et l'eau aussi a sorti par le dessus. Comme ça a dit, les écluses des cieux se brisèrent. Alors, ça implique une pluie torrentielle. Quand on parle d'une pluie torrentielle, ce n'est pas des petites pluies comme on a eu hier. Une pluie torrentielle, c'est quelque chose que tu ne vois ni ciel ni terre quand tu te promènes. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, j'étais sur la route en Ontario, et il y a eu c'était... Même les wipers, les essuie-glaces à pleine vitesse ne suffisaient pas pour qu'on puisse voir à 5 pieds devant nous autres. C'était là, ça tombait là, mais on parle de cette forme de quantité de pluie qui tombait. Alors imaginez-vous, ça sortait par en bas, ça sortait par en haut, organisé par l'Esprit de Dieu pour que ça puisse éventuellement couvrir la terre au complet. Et cette pluie-là, des pluies torrentielles vraiment incessantes durant une période de 40 jours et 40 nuits. Et on était rendu là la semaine dernière, la préservation qui est manifestée dans le sens que dans ces versets-là, c'est vraiment dit que Dieu, tout ce qu'il voulait, dans le verset 13, ça c'est intéressant. Je ne l'avais pas vu, je pense qu'il n'y a pas personne à moins de connaître l'hébreu qui puisse saisir ce qui est mentionné dans le verset 13. Dans le verset 13, en ce même jour, rien que pour le fun, celle-là, qu'est-ce qu'il dit? En ce même jour, le même jour. En ce même jour. Mais dans l'hébreu, si on le traduisait littéralement, ça serait in the bone, or in the strength, or in the essence. Autrement dit, l'idée, c'est que le Seigneur a fait coïncider le début du déluge avec le moment du jour où le plus de gens possible, autrement dit, il a voulu le rendre spectaculaire, observable. Alors, c'est ça qui est dans le mot hébreu, qui veut exprimer la solidité, la force, veut indiquer le moment d'entrée de Noé dans l'arche et sa famille, correspond que l'idée se veut visible et observable au grand jour et de façon publique. On le voit pas, ça. On lit ça en hein, ce jour. Mais dans l'hébreu, ce qui est inspiré, l'idée, cette idée-là est là. Autrement dit, le Seigneur a fait en sorte que le moment d'entrée dans l'arche de Noé correspondait avec que ça soit vu et observable publiquement par le plus grand nombre. C'est-tu un hasard? Je ne penserai pas. Alors, on voit ici comment le Seigneur, l'exactitude de l'accomplissement de la prophétie, parce que 14, 15, 16 sont en train de nous dire que tous les animaux que Dieu avait prévus qui seraient sauvés, la famille, Noé, sa femme, ses trois enfants avec leurs épouses, rentraient dans l'arche et qui seraient sauvés. Et c'est ça que le texte dit dans le verset 16. Donc, on a la préservation dans le verset 16b. Là aussi, il y a quelque chose d'intéressant qu'on ne voit pas nécessairement dans le texte original, qu'on ne voit pas nécessairement dans le texte en français, mais c'est là dans l'original. Et ça dit, « Et ceux qui vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu... » Voyez-vous, il y a un mot qui est utilisé ici, mais dans l'original, c'est « Elohim ». Et lui, le « lui » avait commandé... Et là, il y a un autre mot, l'Éternel. Dans le même verset, il y a le mot Dieu et le mot l'Éternel. Et là, c'est sûr qu'on peut dire, ah, ben, ils ont voulu faire des mots pour ne pas répéter le même mot. Non, ce n'est pas ça du tout. Dans l'hébreu, il y a une place que c'est Elohim qui agit, puis dans l'autre, c'est Jéhovah qui agit. Et c'est très significatif quand on se met à regarder ça. Qui a fermé la porte? Jéhovah, le Dieu de l'Alliance, avait fait alliance avec l'homme, et c'est le Dieu de l'Alliance qui a fermé la porte. Mais c'est Elohim qui a fait venir les animaux, mâles et femelles, comme Elohim la lui avait commandé. Moi, j'avoue que quand je découvre une chose semblable, là, on lit tellement rapidement, et Dieu, et l'Éternel... On passe par-dessus. On manque quelque chose d'intéressant. Parce qu'autrement dit, l'idée est en train de nous dire que pour ce qui est de la puissance que ça nécessitait pour faire tout ça, c'est Elohim qui agissait. Elohim, c'est le mot, le nom de Dieu qui est au pluriel, qui est le Dieu trinitaire. Le Dieu trinitaire qui a accompli toute cette gigantesque œuvre de destruction. Mais celui qui a fermé la porte, c'était le Dieu de l'Alliance. Moi, je trouve ça très, très beau. Très, très beau. C'est dans le texte. Alors, quand on le découvre, je trouve que c'est quelque chose de très... Alors, le mot Elohim, qui est traduit comme Dieu, le lui avait commandé. Le mot Elohim, traduit par Dieu, fait référence à la toute-puissance du Seigneur pour conduire les animaux jusqu'à l'arche par impulsion divine et aussi le fait d'être capable de briser la croûte terrestre, de faire tomber l'eau d'en haut, ça prend de la puissance. Et là, c'est le Dieu trinitaire qui a fait ça. pas pour rien qu'il utilise un mot pour parler d'un geste, il utilise un autre mot pour parler d'un autre geste. C'est très hautement significatif. Alors, Jéhovah ou Yahweh, dépendamment de quelle façon on décide de l'exprimer, donc c'est le Dieu de l'Alliance avec son peuple, c'est le Dieu de l'Alliance lui-même qui a fermé la porte. Alors, on a quelque chose d'intéressant. On sert souvent de ce texte-là pour parler, pour comparer l'arche avec le fait que Jésus est la porte. Et quand la porte va être fermée, celle du Nouveau Testament, il va se produire exactement la même chose que quand il est arrivé avec le déluge. Et on va aller lire le passage dans le Nouveau Testament où on vient nous parler de la porte, mais dans la perspective du Nouveau Testament. On a ça dans Luc 13, versets 23 à 25. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, « n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la moisson se sera levé et aura fermé la porte, » C'est qui ferme la porte? Le maître de la moisson. Exactement comme dans l'Ancien Testament, c'était Jéhovah qui fermait la porte et dit « aura fermé la porte » et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » On voit le parallèle est saisissant. Quand le Seigneur va fermer la porte, à remarquer que les gens vont quand même essayer de cogner, puis vont vouloir rentrer. Parce qu'il dit, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Mais quand c'est fermé, c'est fermé. Alors, il faut voir le parallèle que le Seigneur veut qu'on comprenne entre le fait qu'il a fermé l'arche lui-même et le fait que le maître de la moisson, lui aussi, va fermer la porte et qu'à partir du moment qu'elle va être fermée, quand le Seigneur décide que c'est le moment du jugement, comment tu continueras à cogner et dire hey, tu m'as oublié, moi aussi je veux être là-dedans, mais il est trop tard. Tu aurais dû y penser avant. Et là, on tombe dans la troisième partie, vraiment la présomption de ceux qui ont été avertis, qui ont entendu à de multiples reprises les avertissements que Noé voulait bien leur donner, versets 17 à 24. Alors, on pourrait se dire, comment ça peut se définir, présomption? Moi, dans ce temps-là, quand je prends un mot comme ça, là, puis que je me souviens plus trop, je sais un petit peu ce que ça veut dire, ben, je sors mon dictionnaire. Je regarde... Alors, on peut définir la présomption comme étant l'action de donner comme peu probable l'accomplissement d'une menace ou d'un avertissement. Disons, vous rencontrez un enfant de 3 ans sur la rue, puis dit « Hey, il m'a tué! » T'énerve pas trop avec ça. Mais si tu rencontres un Hells Angel qui dit « T'es mieux de t'enlever de ma route parce que je vais te descendre. » Oh! Là, t'es pas présomptueux. Tu dis « Bah là, on s'énerve pas. » Là. Tu agis, tu bouges. Alors la présomption, c'est de ne pas donner de crédibilité à quelque chose que tu devrais en avoir. Alors, tu considères comme peu probable l'accomplissement d'une menace. Oh ben là, Noé, avec tes affaires, que le Seigneur va couvrir toutes les eaux de la terre, qu'on va tout mourir. Voyons donc. Peu probable. Lui, dans sa tête, à lui, il se dit peu probable. Et il ne tient pas compte de l'avertissement. Alors, les hommes méchants de l'époque ne donnaient pas de crédibilité ou de vraisemblance à l'arrivée d'un déluge universel capable de détruire toute la vie terrestre. Mais on voit dans le verset 17 à 19, très intéressant aussi les versets 17 à 19, les mots que le Seigneur utilise pour montrer la croissance des eaux. Comment tout cela s'est développé. Les mots sont vraiment intéressants. Versets 17 à 19, « Et le déluge fut 40 jours sur la terre. » Et regardez bien les mots qui sont utilisés. « Les eaux crurent. » et soulevèrent l'arche. Alors là, on parle de... Il faut qu'il en arrive pas mal de l'eau, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dimension, là. Pour faire lever ça, il faut comment en avoir pas mal d'eau pour faire lever le bateau. Alors, et là, le premier verset dit « Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. » Alors là, ça nous donne une idée qu'il commence à en avoir pas mal. « Et elle s'éleva du dessus de la terre. » Donc, à quelque part, elle était posée sur le sol et l'eau est devenue assez importante. Alors là, on a une idée de la croissance. Mais le verset suivant veut nous montrer que ça n'est pas arrêté là. Ça est allé encore plus loin en termes de croissance des eaux. Verset 18, « Et les eaux grossirent et crurent fort. » Les mots sont plus puissants. Les eaux ont grossi et ont cru fort, le mot fort, sur la terre. Et là, il se produisait d'autres choses, l'arche flottait à la surface des eaux. Elle n'a pas juste levé au-dessus de la terre, là, tu commençais à flotter. Et dans le verset 19, on parle encore de grossir. Et les eaux grossirent. Et là, le Seigneur utilise un mot prodigieusement. Quand on dit de quelque chose qui est prodigieux, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est vraiment quelque chose, wow, un prodige. Alors, les eaux grossirent encore une fois. Donc, on voit crure, grossir fort et grossir prodigieusement sur la terre. Et là, pour nous montrer jusqu'à quel point c'est allé, toutes les hautes montagnes qui sont sous les cieux furent couvertes. Wow! Ça prend-tu de l'eau, ça? Ça prend pas d'eau. Ça prend énormément d'eau. Alors, les eaux, les termes utilisés pour décrire l'abondance des eaux, se développent pour véhiculer l'idée dramatique qu'elles atteignirent un niveau suffisant pour soulever une arche de 450 pieds de long, 75 pieds de large, 45 pieds de haut, et l'amener à flotter et à recouvrir toutes les hautes montagnes qui sont sous les cieux. Ça en prend de l'eau, ça, mes amis. Pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a tant de gens qui font les gorges chaudes des Écritures parce qu'ils voient ça et ils se disent « Voyons donc, ça se peut pas. » Et là, toutes les explications des païens vont monter à surface pour essayer de justifier leur incrédulité. Mais quand on est véritablement croyant, moi, j'ai aucune difficulté avec le texte de croire que Dieu est capable de faire ça. Puis il est capable de faire bien plus que ça. C'est rien pour le Seigneur, ça. C'est une pichinotte, une insignifiance. Alors, dans le verset 20, viennent nous donner vraiment une information. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus, et là on parle au-dessus des montagnes. Là, j'ai regardé des commentateurs, là, ils disent, ça peut, le mont Everest c'est plus haut, 30 000 pieds. Et là, il y en a qui disent, à cause du fait que la croûte terrestre est ouverte, il est possible que les continents aient pu se déplacer et que les montagnes, c'était pas nécessairement celle qu'on voit comme étant la plus haute aujourd'hui. Possible, mais personne n'est capable de prouver quoi que ce soit là-dedans. La seule chose que le Seigneur veut qu'on sache, c'est qu'il nous dit 15 coudées, 15 fois 18 pouces, 15 fois un pied et demi, au-dessus de 20 pieds au-dessus des plus hautes montagnes, qu'il y avait à l'époque. Que ce soit une montagne plus basse à cause que la croûte terrestre, tout ça, ça a dû créer des changements ou des mouvances dans même les continents. Parce que quand on parle que tu casses la croûte terrestre souterraine, imaginez-vous la force que ça prend pour faire ça. C'est énorme. Alors, la seule chose que Dieu veut qu'on sache, c'est que c'était 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes. Et là, ça dit... Et les montagnes furent couvertes. Alors, ça prenait-tu de l'eau ou ça prenait pas d'eau? Ça nous donne une idée du gigantisme du déluge universel qui accomplissait les desseins de destruction des hommes et des animaux de toute la terre. Maintenant, ces eaux-là étaient puissantes, ces eaux-là étaient massives. Maintenant, il était destructrice, versets 21 à 24. Et toute chair se mouvait sur la terre, expirant. Tant des oiseaux que du bétail, des animaux et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines et tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, et ils furent exterminés. Voyez-vous, juste dans, à l'intérieur de trois versets, là, on parle de chair qui expire, on parle d'extermination, on parle de mort, et le mot exterminé est donné deux fois. Alors vraiment l'idée, la mort universelle qui s'installe partout sur décision divine. Après ça, il dit, il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche, et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. C'est drôle que, je me souviens que les premières fois que j'ai lu ce passage-là, là on mentionne souvent dans les commentaires que la durée de la vie de Noé dans l'arche aurait duré 371 jours. Là, je me disais, où qui prennent ces chiffres-là? Là, je me suis mis à m'intéresser à ça. Là, on parle de 150 jours. Et si vous allez dans le chapitre 8, il y a un autre 150 jours. Et après ça, il y a un 40 jours. Et ce matin, je lisais le chapitre 8 attentivement. Et j'ai fait l'addition. Et j'arrivais, effectivement, à 371 jours que Noé était dans l'arche. C'est sûr, il a atterri sur le mont Ararat après 150 jours, mais là, ça dit qu'il est resté là encore un bout de temps avant qu'il puisse sortir. Alors, si vous additionnez tout ce qui est mentionné dans le chapitre 7 et vous additionnez ça avec ce qui est mentionné dans le chapitre 8, vous allez arriver au chiffre de 371 jours que Noé a resté dans l'arche avant que les eaux diminuent et qu'il puisse sortir de la terre et qu'il puisse faire sortir les animaux. C'est intéressant quand on se met à regarder ça comme il faut, parce qu'on voit que les Écritures sont précises et que parfois, juste l'observation et un petit calcul mental, il y a 150 jours là, un autre 150 jours là, ça fait 300 jours, et là, tu vois, il y a un 40 jours, après ça, et on additionne ça, il a envoyé le corbeau, séjour, la colombe, un autre séjour, et tu additionnes tout ça, ça fait 371 jours exactement. Alors, on ne peut faire que s'émerveiller devant la sagesse divine et la richesse du texte hébreu par l'observation suivante. Si nous croyons que la date du début du déluge est le 17 du deuxième mois de l'année civile hébreu, nous constatons que les Saintes Écritures nous apprennent dans le chapitre 8, au verset 4, et au septième mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc, 150 jours exactement après le début du déluge, l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat. Le 17e jour du 7e mois de l'année civile juive, au mois d'Abib ou de Nisan, nous apprend que c'est la date de la résurrection du Christ et la date à laquelle les Israélites traversèrent la mer Rouge. C'est-tu assez beau à votre goût? Moi, j'avoue que quand j'ai lu ça, là, j'ai dit, waouh, c'est fort, c'est très fort. La date, 150 jours après, ça correspond avec la date de la résurrection de Christ. L'image est tellement forte que quand on la saisit, on la voit, ça nous saute à la tête. Moi, je trouve ça... Ça fait partie des... Je pense... Tu sais, le Seigneur, quelque part, je pense que c'est dans le psaume 119, il dit « Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. » Les Écritures sont pleines de ce style de merveilles-là, mais parfois, on en manque plusieurs, malheureusement. Mais quand on les découvre, que Dieu permet, dans sa providence, qu'un certain auteur l'a vu et qu'il nous le partage, on ne peut pas faire autrement que d'être... émerveillé devant ce que Dieu permet qu'il arrive. Alors, il y a une autre chose qui nous est dit dans... J'ai marqué Genèse, mais d'après moi, je me suis trompé. Ça doit être... dans Hébreux. Je l'ai mis Genèse, mais je pense que je voulais dire Hébreux, chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, autant c'était terrible pour l'humanité qui ont vécu, parce qu'ils l'ont vécu, là, ces gens-là, des millions de personnes qui ont vu ça monter, qui devaient commencer à s'énerver, ça hurlait, ça criait, ça devait essayer de monter après l'arche, il devait avoir toutes sortes de choses qui s'est passées, là. Ça s'est pas arrivé comme ça, là. Ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont eu le temps de voir leur erreur, ils ont eu le temps de saisir. Mais il était trop tard. Peu importe ce qu'ils ont essayé, ça n'a pas dû fonctionner. Ils sont tous crevés. Quand le Seigneur nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, quand le jugement par le feu va arriver, ça va être quelque chose de terrible. Quand on dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, imaginez-vous le jugement dernier. Ça va être encore bien plus terrible. Parce que là, c'est pas juste une destruction de ta vie physique. C'est une condamnation officielle, verbale, par le roi de l'univers qui te condamne à vivre. Aller au feu éternel maudit. Personne qui est capable d'imaginer la puissance qu'il va y avoir dans ce mot-là, dans ces mots-là, qui va littéralement terroriser les gens qui vont l'entendre. Terroriser, là, ça, qui d'entre nous a connu une véritable terreur? Des fois, on a des grosses peurs, là, mais une terreur, ça a un degré un petit peu supérieur. Alors, quelles sont les applications que ce texte-là nous donne? Moi, j'en vois plusieurs, j'en vois sept, on va y passer rapidement. Première leçon, le Seigneur veille et exécute sa parole. La deuxième, le Seigneur est infiniment saint, il hait le péché et il rétribue le juste et le méchant. Proverbe 11, 31, souvent on oublie ça. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Ça veut dire qu'on ne peut pas pécher à tour de bras sans penser que le Seigneur ne nous rétribuera pas. Combien plus le méchant et le pécheur. Si le Seigneur rétribue les justes, combien plus, comme dit le méchant. Troisième application, suivons l'exemple de Noé. Une foi agissante pour construire pendant 120 ans. Un peu comme nous, on est sur la terre, il nous reste encore peut-être plusieurs années. Construire pour nous, ce n'est pas un bateau qu'il faut construire. C'est l'Église de Christ. C'est aller avertir les gens. Un peu comme Noé l'a fait, ça prenait du courage pour aller dire ça aux gens à cette époque-là. Faire rire de toi, te faire rejeter, te faire mépriser, te faire haïr. Ben, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, quand on va vouloir annoncer, construire l'œuvre de Jésus-Christ, nous aussi on va être haïs. Nous aussi on va être méprisés. Nous aussi on va être rejetés. Nous aussi on va être haïs. Mais construire, ça veut dire continuer à faire les choses malgré tout cela. Penser qu'on peut être chrétien sans souffrir, peut-être qu'on fait une erreur. Alors, ça prend une prédication fidèle, ça prend des avertissements aux méchants. Et la quatrième application, remarquons l'absolue souveraineté de Dieu sur sa création. Il décide qu'il enlève tout ça. C'est lui le maître, c'est lui le roi, capable de faire ce qu'il veut, il a le droit de faire ce qu'il veut, ça lui appartient. Cinquième application, la miséricorde de Dieu dans nos vies est constante et générale. Là, on pourrait rentrer dans beaucoup de détails. Autant Dieu était miséricordieux envers son serviteur Noé, autant il l'est encore avec nous aujourd'hui, dans beaucoup d'aspects, pas beaucoup d'aspects, dans tous les aspects de nos vies. Et il nous prodigue ses soins tendres avec fidélité. Sixième application, le Seigneur bénit avec grande abondance ceux qui le craignent. N'est-ce pas que Noé et sa famille étaient profondément, richement, très abondamment bénis, mais la raison pour laquelle ils étaient bénis, c'est parce qu'ils ont eu une crainte réelle, ils ont cru à ce que Dieu disait. Et septième, et celle-là je la trouve importante pour nous, pour tout le monde, la victoire morale est possible même dans les pires moments d'apostasie de l'humanité. N'est-ce pas qu'on vit dans une époque où on est littéralement envahis, submergés par le mal qui nous entoure de toutes parts du côté. Et ça, ça a une influence sur nos vies parce que on pense que ça ne nous influence pas. Le postmodernisme, ceux qui vont pouvoir être là, là mercredi, c'est ma dernière leçon, je viens de la finir, c'est, on est littéralement là-dedans, on va voir qu'on est vraiment entouré par le postmodernisme. Et tout ça, ça finit par nous influencer beaucoup plus intensément et profondément qu'on le croit. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça démontre que même dans ces périodes-là où on passe pour des nonos à annoncer l'Évangile, la pureté morale, la persévérance dans l'annonce du salut est non seulement possible, mais on est capable de le faire malgré qu'on va payer le prix, mais c'est possible de vivre saintement dans une société pourrie. La preuve, Noé, il vivait dans une société ultra pourrie, parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'avait déclaré, et il a maintenu son niveau de sainteté dans ce milieu-là. Alors, on a beaucoup à apprendre de Noé. Que notre grand Dieu soit béni pour sa bonté, sa justice et son amour infini envers ses élus. Amen.